BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est BFM Patrimoine qui vous ouvre ses portes. On vous accueille comme chaque matin pour 2 heures d'expertise liée au monde de vos placements. On vous accompagne jusqu'à midi, mais on ne saurait commencer sans un survol de l'actualité éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est le plan du gouvernement pour faire face à la crise du logement. Il sera présenté cet après-midi par Elisabeth Borne, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Parmi les mesures, il y a le prolongement du prêt à taux zéro jusqu'en 2027, mais avec un champ plus restreint, puisque le dispositif va exclure désormais l'achat de maisons neuves. Et il y a aussi la mort du Pinel, un dispositif fiscal d'aide à l'investissement dans le neuf qui devait s'éteindre en 2025. Des annonces qui passent mal auprès des acteurs du secteur qui dénoncent aussi l'absence de mesures sur l'encadrement des prix du foncier. C'était pourtant une des propositions fortes issues du Conseil national de la refondation sur le logement. Son co-animateur, Michaël Nogal, était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Il y a des manques aujourd'hui et moi j'attends des précisions sur beaucoup de sujets. Le foncier, on proposait l'encadrement des prix du foncier. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'inflation sur le logement, elle vient des matériaux de construction, mais elle vient aussi beaucoup des terrains.
Bien sûr.
Donc il faut lutter contre cette spéculation. Aujourd'hui, on attend des mesures là-dessus.
L'OPEP Plus va réduire sa production de pétrole, une réduction de l'ordre d'1,4 million de barils jour supplémentaires à compter de l'année prochaine. De son côté, l'Arabie Saoudite va plus loin et annonce une baisse d'1 million de barils jour qui s'applique à compter de juillet et qui pourra être prolongée. Objectif, faire remonter les cours du pétrole en berne à cause notamment des craintes de récession mondiale et des hausses de taux. Dans l'actualité entreprise, Airbus s'apprête à recevoir une commande record. La compagnie indienne Indigo pourrait commander 500 appareils monocouloirs de la famille des A380, ce qui représenterait 50 milliards de dollars au prix catalogue. Toujours dans l'aérien, les compagnies s'attendent à transporter 4,3 milliards de passagers en 2023 dans le monde, presque autant qu'en 2019, qui était une année record. En conséquence, les compagnies devraient dégager 9,8 milliards de dollars de bénéfices nets cette année, soit le double de ce qu'envisageait IATA, la principale association internationale du secteur. Et dans le secteur bancaire, la fusion Crédit Suisse et UBS sera finalisée d'ici lundi prochain. Annonce des deux banques ce matin, les actions de Crédit Suisse seront retirées de la cote. De son côté, UBS pourrait devoir reporter la publication de ses résultats jusqu'à la fin du mois d'août. C'est en tout cas ce qu'affirme le Financial Times dans un article publié ce week-end. Et puis, après Meta, en fin de semaine dernière, c'est au tour d'Apple de présenter un casque de réalité virtuelle. Ce soir, ce sera le premier lancé par la marque à l'occasion de sa conférence des développeurs. Selon les dernières rumeurs, ce casque devrait avoir l'apparence d'un masque de ski. Il porterait le nom de Reality Pro et devrait coûter entre 3 000 et 5 000 dollars. Émission spéciale à suivre dès ce soir sur l'antenne de BFM Business à partir de 20h. Tech & Co, présenté par François Sorel.
Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique et nous, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Antoine Larigauderie que l'on retrouve comme chaque matin depuis le siège d'Euronext à La Défense pour regarder ce que nous proposent nos marchés une heure après les premières cotations. On hésite, on a déjà changé plusieurs fois de direction, Antoine.
Oui, le marché ne nous propose pas grand-chose ce matin parce que l'essentiel a été fait vendredi. On a senti qu'il y avait quand même des choses qui se débloquaient sur les marchés, un sentiment un petit peu plus positif, le déplafonnement de la dette américaine, des indicateurs économiques quand même qui étaient plutôt bon et qui allait plutôt dans le sens d'un climat plus sain sur les marchés, notamment les chiffres de l'emploi, et puis un sentiment général, de manière générale, un petit peu plus positif. Et donc, du coup, ça a libéré pas mal de potentiel vendredi, mais du coup, on en manque ce matin, parce qu'il n'y a pas de catalyseur supplémentaire. On a un CAC 40 qui grimpe de 0,05% à peine. On est à 7274 points, hausse un petit peu plus franche du côté de Francfort, plus 0,25% et plus 0,13% pour l'Eurostock 50. Maintenant, il y a deux choses qui pèsent un petit peu sur l'ensemble l'ensemble des échanges. Déjà, une hausse assez marquée des prix du pétrole. Elle était à prévoir après l'annonce de l'Arabie Saoudite de la réduction de sa production. On a aussi le sentiment de grosses divisions du côté de l'OPEP et de l'OPEP+. Mais pour l'instant, l'objectif de l'Arabie Saoudite est rempli, à savoir une hausse des prix du brut en direction des 80 dollars. Alors, ils espèrent une espèce de fourchette entre 80, peut-être 100 au grand maximum pour pouvoir rentabiliser un petit peu leur projet. Du coup, le Brent, ce matin, revient du côté des 77 dollars. Vous voyez, mais ce n'est que la fourchette haute un petit peu de l'évolution de ces dernières semaines. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prime supplémentaire qui se dessine. On verra par la suite. Donc, 77,60 pour le Brent de mer du Nord, 73,20 pour le baril de brut léger américain. Et ça aide d'ailleurs Total à gagner 1,4% à 55,96 €. On a Technip Energy aussi qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 2,9%, 19,52 €. L'autre source de pression sur les marchés, c'est quand même un raidissement des taux obligataires en Europe qui se raffermissent un petit peu. Alors, notamment la dette française, après le maintien de la note chez Standard & Poor's, 2,91% pour la dette française à 10 ans. C'est pas beaucoup non plus. On était dans ces eaux-là en fin de semaine dernière. Enfin, ça reste quand même suffisamment sensible pour un petit peu faire plafonner les valeurs de croissance, et notamment le secteur du luxe. Du côté de Paris, on voit Hermès signer la plus forte baisse du CAC à moins 1,01%, 1937,40 €, LVMH moins 0,9 à 823,20 €, et puis à noter Pernod Ricard moins 0,9%, 204,40 €. Alors du coup, à la hausse, on se replie sur Worldline qui gagne 1,8% à 37,24 €, plus forte hausse du CAC. Unibail Rodamco Westfield plus 1,7 à 45,45 €, et puis à noter aussi Capgemini plus 1,37% à 170 €. Pas mal de valeurs techno qui sont bien orientées. Orange, dans les secteurs un petit peu plus défensifs, le titre gagne 1,6% à 10,80 €. Le CAC 40 donc plus 0,01%, on est à 7271, et l'euro face au dollar est toujours sous 1,07, 1,0693. Cédric.
Antoine Larigauderie, chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation depuis le siège d'Euronext à La Défense. Nous, les actions nous intéressent, on file explorer la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et notre guide ce matin, il nous attend du côté de Tiepolo, Benjamin Rivière. Bonjour Benjamin.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez ce matin un éclairage sur Bureau Veritas.
Exactement. Donc Bureau Veritas, pour rappel, c'est l'un des leaders mondiaux avec le Suisse SGS de ce qu'on appelle le testing, l'inspection et la certification. Tout le monde connaît la norme ISO 9001. Bien, lorsqu'une entreprise dit qu'elle suit cette norme, cela doit être certifié. Et c'est une entreprise comme Bureau Veritas qui le fait. Outre cette activité, donc l'entreprise dispose de centres de test où les nouveaux produits qui seront vendus en Europe, par exemple, et produits en Chine, doivent être testés à la demande des groupes qui les fait fabriquer pour vérifier leur conformité et leur innocuité. Voilà, au global, Bureau Veritas réalise un peu moins de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une marge qui tourne autour de 16%.
Bon, alors voilà, pour le bref portrait, reste que ces derniers temps, le titre souffre en bourse.
Tout à fait. La première raison, c'est que le groupe réalise une partie de son chiffre d'affaires relativement significative en Chine, et la baisse de la consommation dans les pays occidentaux pèse un peu sur le titre. Voilà, les grands donneurs d'ordre ont ralenti la commercialisation de nouveaux produits, ce qui fait notamment le new business de Bureau Veritas. Donc ils ont ralenti cette commercialisation parce que effectivement, on voit une baisse de la consommation dans les pays occidentaux, et donc cette division chez Bureau Veritas était en baisse de l'ordre de 3% sur le trimestre. Voilà. En plus de ça, en 2022, on se rappelle qu'il y avait eu beaucoup de confinements en Chine qui ont été assez durs. Et donc là aussi, les investisseurs craignaient un ralentissement global des activités du groupe. D'où un titre qui stagne depuis maintenant un an. Mais il continue à se développer. Donc ça, c'est plutôt quand même une très bonne nouvelle.
Et ça justifie donc qu'on s'y intéresse ?
Oui, tout à fait. On l'a vu sur le T1, le groupe a dépassé les attentes du marché lors de la publication du premier trimestre. Il y a quelques années, les marchés de Bureau Veritas étaient quand même assez cycliques. Ils étaient très orientés CAPEX, c'est-à-dire dépenses d'activités primaires, la construction de bateaux, la production de pétrole, ce qui rendait l'activité du groupe très dépendante du cycle économique. Donc ce qui a été changé depuis ces dernières années, c'est ça. Aujourd'hui, le groupe il est plus orienté sur les OPEX des entreprises, qui sont par nature moins cycliques. Et c'est ce qu'on a vu lors des dernières publications. En plus, le groupe avait une politique de M&A, donc de fusion et acquisition, qui était un peu plus agressive et qui rendait son bilan un peu plus tendu. Aujourd'hui, cette politique est plutôt derrière nous et le bilan de Bureau Veritas est très sain, avec en gros un levier qui devrait arriver autour d'une fois, ce qui est largement soutenable et ce qui pourrait permettre de relever le dividende. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Et puis en plus, on sait que l'ESG devrait être un bon driver pour les prochaines années.
Alors, expliquez-nous justement quel rapport on peut établir entre Bureau Veritas, l'ESG et la croissance.
Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent avoir une communication vertueuse envers leurs clients ou leurs actionnaires. Et lorsqu'une entreprise communique, par exemple, sur le taux de plastique recyclé dans ses produits, ou encore qu'elle va planter un arbre pour chaque produit acheté, il faut qu'il y ait un expert indépendant qui vienne le certifier. Voilà, il faut bien que quelqu'un aille vérifier sur place. Eh bien, c'est Bureau Veritas qui le fait. Et c'est un vrai axe de croissance. L'autre axe de croissance, c'est lorsqu'il y aura des reporting ESG obligatoires pour les entreprises. Certes, les grands cabinets d'audit certifieront ces données, mais il faudra que ces données aient été certifiées.
Voilà donc quelques idées à avoir sur ce dossier Bureau Veritas proposé ce matin depuis Tiepolo par Benjamin Rivière. Et si on regarde un petit peu le consensus des analystes qui suivent cette valeur, eh bien ils sont à l'achat et ils ont un objectif de cours moyen de 27,83 €. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Rivière, donc Tiepolo, le CAC 40 lui est étal, 7270 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
On rejoint Bruno Cavalier depuis Oddo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous du lundi. Bruno Le Maire a donc estimé que la décision de Standard & Poor's de laisser inchangée la notation de la dette française était un signal positif. Et vous ?
Je dirais que je pense que la réaction du ministre des Finances est un peu celle d'un parent d'élève qui sur le bulletin de son enfant, des encouragements à mieux faire. C'est toujours mieux qu'un blâme pour des comportements irresponsables chroniques.
C'est sûr.
Bon, plus sérieusement sur le fond, les notations souveraines, surtout pour un grand pays comme la France, ne nous apprennent pas grand-chose. S&P ou Moody's ou les autres agences n'ont pas d'informations privilégiées qui ne soient déjà publiques. Donc, je dirais, la seule vertu qu'on pourrait leur reconnaître éventuellement, ce serait de provoquer une sorte de prise de conscience collective, qui est quand même un souci. Les finances publiques françaises ne sont pas dans une forme éblouissante. C'est d'ailleurs peut-être moins un problème de dette publique que de niveau et de qualité de la dépense. Bon, le problème, c'est que des mises en garde, des rapports, on en a eu un nombre considérable. On rappellera que peut-être le premier qui a un peu marqué les esprits, c'est le rapport Pébro. Il a été publié en 2005, c'était il y a 18 ans, et que dans l'intervalle, la France a enchaîné 18 budgets déficitaires. Donc, voilà où on en est. Sur cette question.
Commentaire donc de cette décision, sur cette décision. Bruno Cavalier, dans le reste de l'actualité, on a aussi et peut-être surtout, tout au long de la journée, une avalanche d'indices PMI. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Quels sont ceux qui vous intéressent peut-être plus que d'autres ? Comment discriminer un petit peu dans cette profusion ?
Alors aujourd'hui, ce sont surtout les indicateurs de confiance pour le secteur des services. On a eu à la fin de la semaine dernière ceux pour le secteur manufacturier. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est un constat qui vaut pour l'Europe. Les chiffres viennent de tomber, mais aussi pour les États-Unis et pour la Chine. C'est l'écart souvent historique entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, on a une confiance manufacturière qui est très basse. En Europe, elle a baissé pour le quatrième mois de suite. L'indicateur se situe aux alentours de 45 points. Je rappelle, c'est des indicateurs qui sont calibrés de telle sorte que au-dessus de 50, ça représente une situation d'expansion. Au-dessous de 50 points, une situation de contraction. Donc, le manufacturier est aux alentours de 45. Et on vient d'avoir les services qui sont à 51. Donc, par exemple, en Europe, on a 10 points d'écart. Et je souligne, c'est tout à fait historique. Ça s'est jamais vu, un écart aussi grand. Alors, on pourrait se dire, autant mieux si l'écart est dans ce sens-là, parce qu'après tous les services, une plus grosse partie de l'économie que le secteur manufacturier, donc peut-être que ça explique en partie la bonne résistance de l'économie européenne ou autre à un certain nombre de chocs. Bon, le problème, c'est qu'il faut regarder aussi les choses un peu en dynamique, c'est qu'on voit bien quelles sont les raisons de cet écart, en particulier pourquoi il y a une faiblesse industrielle. Bon, il y a une baisse, après un boom, il y a une baisse de la demande de produits manufacturés, une baisse des prix industriels, il y a une certaine faiblesse de la Chine. Face à ça, la résistance des services n'est peut-être pas absolument garantie. Si les services, ou si la confiance dans les services est si élevée, c'est parce que les services se sont repris plus tardivement. La réouverture complète des économies s'est faite un petit peu plus tardivement dans le secteur des services que dans le secteur des biens. Et donc, voilà, là, on est peut-être à un niveau un petit peu record, mais non extrapolable de la confiance. Donc, c'est un point à noter. Et il faut que je vous souligne que dans les services, la confiance des directeurs d'achat a enregistré sa première baisse de l'année. Donc, c'est peut-être un petit signal d'alerte pour la suite.
Merci beaucoup d'avoir décrypté ces quelques éléments ce matin. Bruno Cavalier, Odo BHF, qui nous accompagne très régulièrement. Le marché parisien, lui, est quasi inchangé sur son niveau de clôture de vendredi soir, 7270 points.
BFM Business, BFM Patrimoine. La vie immo.
Ouh, ça bouillonne dans la tête de Marie-Cœur de Roy. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
Un PTZ prolongé mais plus restrictif, la mort annoncée du Pinel, la réponse du gouvernement à la crise du logement passera donc par des économies.
Eh oui, vous attendiez un plan de soutien, hein?
Ouais, je sais pas.
Non.
Bon, série d'annonces attendues cet après-midi après la remise des travaux du CNR Logement. Et tout ce qu'on en sait, bah, ça passe mal. On commence par le PTZ ?
On commence par le PTZ. Bah, le prêt à taux zéro, c'est quand même ça, c'est quand même là-dessus que les professionnels du logement neuf attendaient le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, les professionnels du logement neuf qui sont dans une grave crise ? Ils voulaient que non seulement on prolonge le prêt à taux zéro, mais qu'en plus on l'élargisse. Bon, ils ont eu une prolongation jusqu'en 2027. Et ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être la seule bonne nouvelle. Pour le reste, faut voir qu'on a réduit finalement le nombre de bénéficiaires du prêt à taux zéro. Alors très concrètement, vous allez pouvoir avoir un prêt à taux zéro dans les zones tendues si vous achetez un logement neuf dans le collectif, autrement dit un appartement dans un immeuble.
Pour les maisons, c'est terminé.
Pour les maisons, c'est terminé. Vous faites construire votre maison, vous n'aurez pas de prêt à taux zéro. Alors, pour les zones détendues, c'était déjà le cas auparavant, vous avez toujours le droit à un PTZ si vous achetez de l'ancien mais avec de très très lourds travaux de rénovation. Alors oui, évidemment, les constructeurs de maisons sont vent debout, ça paraît logique. Le patron du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, donc qui représente ces constructeurs de maisons, il me disait, je crois qu'on a une fâcheuse tendance à oublier que la moitié des ventes de logements neufs chaque année, ce sont pas des appartements, enfin si, une moitié appartement, l'autre moitié maison. Donc voilà ce qu'on est en train de plomber. Il rappelait les chiffres, hein, à fin avril, 84 000 maisons vendues sur 12 mois. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint, jamais. Même au début des années 90, avec la grave crise, machin, etc. On n'avait pas atteint ce niveau-là. Alors vous en avez un autre que j'ai contacté, qui est le patron de la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles, qui s'appelle Damien Héran. Et alors lui, il est plus que colère. À un moment donné, je finis par lui dire, dans le cadre de notre conversation, mais vous êtes en train de me dire que le gouvernement est en train de tirer sur l'ambulance. Et alors là, il me dit, bah, en fait, c'est plus une ambulance maintenant, c'est un corbillard. Donc voilà, l'ambiance.
C'est clair. L'autre annonce, c'est la mort du Pinel.
Ouais, alors la mesure de tout ça, c'est quand même, il va falloir prendre en compte ce que je suis en train de vous dire, c'est clairement, on va de moins en moins aider les propriétaires privés. Et encore moins les propriétaires bailleurs privés. Donc effectivement, c'est une sacrée annonce. Parce que quoi ? Alors, déjà, il faut le rappeler, on a un dispositif d'aide à l'investissement locatif dans le neuf qui existe depuis une quarantaine d'années et chaque fois c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des échéances et à chaque fois on a une prolongation. Et là, cette fois, on nous dit le Pinel était censé s'éteindre à la fin de l'année 2024. Et bien cette fois, il n'y aura pas de prolongation. C'est terminé, terminé, terminé. Ça veut dire que pour la première fois, depuis 1986, c'est le dispositif Meignery, on n'aura plus de dispositif d'aide à l'investissement locatif. Alors du côté du CNR Logement, parce que quand même c'est de ça dont on parle, hein, on avait un peu anticipé ça en se disant, ok très bien, on supprime le Pinel, pas de problème. Mais parallèlement à ça, il va falloir quand même revaloriser le rôle social et environnemental d'ailleurs, dans la rénovation, du bailleur privé. Et donc on s'était dit, on va créer enfin ce fameux statut du bailleur privé. Bah non. Il n'y aura pas de compensation par là. Alors, il y aura une réflexion, nous dit-on, sur la fiscalité locative, avec l'idée de favoriser le développement d'offres allouées de longue durée, évidemment au détriment d'Airbnb, hein, c'est ce qu'on comprend. On n'a pas vraiment de détails, mais le fait est que c'est une réflexion. On n'est pas sur la promesse de mesures concrètes avec un statut particulier. En réalité, la philosophie d'Emmanuel Macron, il faut bien l'entendre, c'est qu'il va falloir, selon lui, hein, encore une fois, que les grands institutionnels se substituent aux propriétaires bailleurs privés. Vous excusez-moi, pour produire une offre de logement à loyer abordable. Donc, on parle de logement intermédiaire. Donc, il y a toute une réflexion, il y a des mesures. On va faire passer, par exemple, une série de communes, une centaine de communes en zone tendue pour permettre de produire dans ces villes-là du logement intermédiaire. Le problème, c'est que les calculs ne sont pas forcément les bons, à mon sens, et au sens de beaucoup de gens, puisque dans un climat de taux élevé, on sait très bien que les grands institutionnels, ils n'ont pas trop d'intérêt à aller investir dans le résidentiel, qui plus est, investir dans le résidentiel avec des loyers plafonnés, puisque ce serait le cas sur du logement intermédiaire.
Il y avait aussi des mesures structurelles qu'on attendait, notamment par exemple sur la question du foncier.
Et ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait dire, ok très bien, on déperfuse, c'est-à-dire on vire le PTZ ou en tout cas on réduit le PTZ, on vire le Pinel, mais parallèlement on a une vraie politique du logement, on trouve les moyens d'aménager le territoire comme il faut, de libérer du foncier, ben non. Et effectivement, pourtant le CNR, parmi ses propositions, reparlait de cette question du foncier privé. On rappelle que c'est l'alpha et l'oméga, ce qui fait qu'aujourd'hui les prix sont élevés dans le neuf. La base, ça reste la cherté de vos terrains hein, que vous possédez encore. Et aujourd'hui, il y avait deux propositions que le CNR Logement faisait. La première, une inversion de la fiscalité sur ce foncier privé. On le rappelle.
Le truc qui paraît le plus logique et le plus simple.
On le rappelle, et pas coûteux, même au contraire, peut-être. On le rappelle, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, quand vous avez un terrain à bâtir, vous avez plus intérêt à le garder au-delà de 22 ans pour être complètement défiscalisé sur votre plus-value.
Et 30 ans même.
Alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse et que plus vous vendez tôt et moins vous ayez de fiscalité derrière. Donc l'idée, c'est un serpent de mer. Encore une fois, je le répète assez régulièrement à l'antenne, je faisais des papiers dessus il y a 10 ans. Hein, donc ça aurait été donc d'inverser la fiscalité. Il y avait même une autre proposition qui était quand même hyper forte, qui était de dire on va encadrer les prix du foncier à la sortie. Bon, alors vous allez me dire, est-ce que c'est constitutionnel, est-ce que ça pose des problèmes? Sans doute, mais après tout, on a bien encadré les loyers. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, sur le foncier privé, aucune annonce, en tout cas c'est ce que nous a dit Matignon hier soir. La situation, elle est telle, faut bien entendre, que les professionnels du secteur que j'ai eu en ligne et à qui j'ai parlé depuis hier et encore ce matin me disent, c'est pas possible que ça reste en l'état. On ose espérer que la Première ministre tout à l'heure viendra avec quelques surprises, et notamment sur cette question du foncier.
Bah tiens, on en a un professionnel sous la main.
Oui, parce qu'il y a d'autres mesures à aborder avec Eric.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Pour le réseau ERA Immobilier, votre première réaction quand vous avez découvert tout ça
C'est une catastrophe, il n'y a pas d'incitation. Il n'y a pas d'incitation. Si vous incitez pas les investisseurs à investir, c'est simple, ils investissent pas. Donc forcément, on réduit le volume de biens disponibles. Alors que ce soit la location, effectivement, ce qui pénalise.
On nous dit qu'il faut purger le stock. Il y a trop d'appartements.
Alors ça dépend où déjà. Et puis purger le stock. Et on a quand même pas assez de logements en France. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les prix sont élevés. Et puis il y a les primo-accédants aussi. Parce que les primo-accédants, il y en a plus. Je discute avec des agences immobilières qui me disent, mais les primo-accédants, on les voit pas. Effectivement, puisqu'il y a deux problèmes. Il y a un problème d'apport et il y a un problème de crédit. Alors, il faut vraiment des mesures qui incitent les gens à soit investir ou alors les primo-accédants à trouver des solutions par rapport à leur situation.
L'extension du dispositif Visal, parce que ça fait partie des annonces, ils disent on va plus que doubler, aujourd'hui c'est bon an mal an un petit peu moins d'1 million de Visal, donc on rappelle c'est une garantie contre les impayés de loyer, donc c'est pour les propriétaires bailleurs, mais ça profite finalement aux locataires et c'est public et donc enfin ou semi-public, et de fait c'est gratuit pour les propriétaires bailleurs. Est-ce que vous trouvez que ça peut être une bonne idée?
Une bonne idée, c'est toujours bon à prendre. Ceci dit, si vous n'avez pas d'immeubles qui sont disponibles à la location, le problème il est réglé. Vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un problème d'incitation. Il faut insister, encore une fois, les investisseurs à investir. Pour ça, il faut leur donner des conditions qui soient propices. Pourquoi pas la déduction des intérêts d'emprunt, c'est une piste aussi qui, en même temps, permettrait, ce que vous disiez tout à l'heure, une pérennisation du système, parce que c'est vrai que les mesures Pinel, etc. et autres, on sait que c'est limité dans le temps, donc on se pose toujours des questions sur l'avenir, etc. Je pense qu'il faut vraiment enraciner pour les investisseurs cette possibilité de déduire ces intérêts d'emprunt, ce serait une bonne mesure. Et puis concernant les primo-accédants, il faut trouver une solution par rapport à leur apport personnel. On voit aujourd'hui, en plus de ça, quand ils achètent un bien immobilier, même ancien, quand on voit les coûts de rénovation qui sont effectivement très élevés, tout ça se conjugue en ce moment. On a le problème effectivement du DPE, on a des problèmes de l'audit énergétique.
Vous attendiez des annonces là-dessus ?
On espère avoir quelque chose, oui, quelque chose qui permette concrètement d'améliorer la situation. On voit aujourd'hui que MaPrimeRénov', c'est une usine à gaz, le truc, les gens comprennent pas. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, ils en sont conscients puisqu'ils veulent doubler aussi, notamment doubler les aides, mais également améliorer le côté pédagogique des choses, parce qu'il y en a bien besoin. On a vu d'ailleurs récemment que le défenseur des droits en a même parlé. J'étais avec eux il y a pas longtemps. Effectivement, ça fait partie de leur rapport. Ils ont des difficultés parce qu'il y a des cas complètement anormaux. on ne comprend pas pourquoi les prêts ne sont pas obtenus concernant ma prime.
Et justement, il y avait parmi les propositions du CNR Logement l'idée de créer une banque de la rénovation. Ça n'a pas été retenu, visiblement.
Oui. Alors, on peut créer effectivement une banque de la rénovation, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut avoir vraiment une dimension concrète et se mettre à la place des gens qui sont concernés. Vous voyez, c'est très simple. C'est-à-dire que les investisseurs, il faut les inciter à investir. En France, malheureusement, on a trop tendance à faire des interdits, de la coercition, alors qu'en fait, il faut faire de l'incitation, donner envie aux gens, donner-leur les moyens de faire ce qu'on leur demande de faire. La rénovation énergétique, c'est très bien, tout le monde est d'accord, il faut rénover, etc. Lutter contre le réchauffement climatique, très bien, mais donnez-moi les moyens de le faire. Si le reste à charge est trop élevé, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de propriétaires qui sont obligés de vendre parce qu'effectivement, ils ne peuvent plus louer. Alors, on n'en a pas encore énormément parce que petit à petit, ça arrive. On a le G+, là, mais bientôt, ça va augmenter et ça va se sentir dans le temps. On a même des gens aujourd'hui, des propriétaires qui ne font pas, qui ont des difficultés pour payer l'audit énergétique. Parce que effectivement, tout ça, c'est un coût. En plus, c'est pas clair parce que les prix sont pas les mêmes. On sait qu'on n'a pas assez de professionnels qui sont capables de faire ces audits. Donc tout ça doit se mettre en place, ça doit prendre un petit peu de temps. Mais encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une réflexion en amont lorsqu'on prend des mesures. Et surtout concertée avec les professionnels, notamment avec les syndicats.
Et résultat des courses, j'ai envie de dire, si je regarde ce qui a déjà filtré de la part de Matignon, quels seront les impacts pour le marché que vous connaissez en termes de prix, de volume, selon vous? Qu'est-ce que ces annonces vont provoquer dans les semaines, les mois qui viennent?
Ça va provoquer tout simplement une situation où il y aura de moins en moins de primo-accédants. Les prix baissent, mais ils baissent pas peut-être comme ils devraient baisser au regard de la réelle situation, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de propriétaires qui ne peuvent pas acheter du neuf et qui se retournent sur l'ancien. On a aussi plus d'anciens qui est à vendre, du coup, compte tenu de cette histoire de DPE et d'audit énergétique. Donc, cette situation-là est un peu bloquée. C'est très compliqué en ce moment.
Donc, vous pensez que les annonces qui sont faites, un, sont sans doute pas à la hauteur, et deux, vont peut-être aggraver la crise qui couve?
En tout cas, elles sont, pour moi, pas au niveau des attentes. Donc, on va voir ce que va dire la Première ministre cet après-midi. Mais elles ne sont pas au niveau des attentes et au niveau des nécessités. Parce qu'au-delà des attentes, il y a quand même un vrai problème. Il faut regarder le problème, il faut le traiter et peut-être pas avoir d'a priori sur le logement. Je ne sais pas si c'est le cas concernant le gouvernement, mais c'est vrai qu'on est un peu frustrés. On se dit, regardez, il y a un problème, il est concret, on le voit tous les acteurs le voient. Et qu'est-ce qu'on a? On a des mesurettes, voire des trucs un peu bizarres. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas de mesures qui permettent aux investisseurs d'investir, qui donnent envie d'investir? Et ces primo-accédants qu'aujourd'hui, on ne voit plus. On ne les voit plus, les primo-accédants, quasiment pas. Hein. C'est un vrai problème.
Et on rappelle que cet immobilier, cette construction, ce logement, c'est un temps très long.
Oui, exactement.
Et que toutes les décisions qui ne sont pas prises, ou les mauvaises décisions qui sont prises aujourd'hui...
Le coup de barre,
une fois qu'on l'aura donné, ça mettra un temps.
Absolument, il y a de l'inertie dans les décisions. On sait qu'une mesure décidée va prendre du temps avant de se mettre en place, va prendre du temps pour effectivement qu'on ressente les effets de tout ça. Donc les mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui, ce sont les problèmes de demain qui vont augmenter.
300 000 emplois menacés, disait ce matin dans la presse le patron de la Fédération des promoteurs.
On était à 100 000 avant les annonces.
On était à 100 000, on a fait 150, maintenant on est à 300 000. Bon. Et c'est sans compter, là on parle que de la filière du bâtiment, c'est sans compter tous les emplois derrière. On rappelle, vous avez beaucoup d'entreprises qui peinent à loger leurs salariés, qui ne peuvent pas recruter parce qu'il y a la crise du logement. À un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions si on veut un pays de plein emploi.
Et puis juste comme ça, le coût, quand on avance le coût du secteur du logement avec les aides, etc., il faut bien comprendre que ces aides permettent d'aider des secteurs qui finalement rapportent de l'argent à l'État.
Quand on fait la balance...
Exact, il faut faire la balance du coût,
mais il y a des
revenus, des rentrées. Donc il faut faire une balance globale, il faut bien regarder tout ça.
Merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à chaud à toutes ces questions. Et on suivra donc avec intérêt. On en parlera demain matin.
Évidemment.
A priori.
On ne sait jamais sur un malentendu, pour y avoir des surprises.
Merci beaucoup, Eric. Eric Allouche, donc, pour ERA. Merci, Marie. À demain, donc, pour suivre tout ça. Dans un instant, ce sont nos traders qui vous livreront leur regard sur le marché. Mathieu Cerron, Andrea Tuoni, on les retrouve dans un instant.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin, à l'entame de cette deuxième demi-heure, ce sont deux traders qui vous ouvrent leurs écrans pour vous donner les clés graphiques et techniques de la séance du jour. Et on retrouve donc Mathieu Cerron, qui nous attend dans les bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Mathieu. Également en liaison avec nous depuis Saxo Bank, Andrea Tweny. Bonjour Andrea, merci à tous les deux d'être là ce matin. On commence avec vous Andrea, comment voyez-vous les choses pour ce marché parisien qui ne semble pas vouloir s'éloigner de son niveau de clôture de vendredi soir?
Ouais, exactement. On est à l'équilibre sur le marché avec pas grand chose qui se passe globalement. On a eu deux séances qui ont été positives et qui ont permis au marché de reprendre de la hauteur. On avait chuté la semaine dernière et puis là on arrive à revenir sur des niveaux qui sont quand même soutenus. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver ce second souffle qui va permettre de poursuivre et de revenir sur des plus hauts. On l'a vu, des marchés américains qui ont clôturé sur des niveaux records presque. Donc on a quand même une tendance qui est extrêmement positive aux États-Unis. Vendredi, ça a été une séance très très positive pour les marchés américains qui ont progressé après le rapport sur l'emploi. Il y a deux lectures possible. Enfin, il y a une lecture qui a été retenue en tout cas, mais c'est deux analyses sur deux composantes différentes de ce rapport sur l'emploi. D'un côté, on a les créations de postes qui ont été extrêmement fortes et qui montrent qu'il y a encore une vigueur au niveau du marché de l'emploi et qu'on est loin d'une phase de récession, en tout cas aux États-Unis. Et puis, on a ce taux de chômage qui a augmenté et puis les salaires qui ont baissé, ce qui rassure, on va dire, sur la partie inflation et ce qui a permis au marché de progresser. C'est encore ce scénario qui est malgré tout retenu aujourd'hui parce qu'on voit que la probabilité d'une pause au mois de juin, c'est-à-dire d'un statu quo au niveau des taux de la Fed la semaine prochaine, le 14 juin, c'est quand même le scénario qui est retenu majoritairement. On est quasiment à 80% de probabilité aujourd'hui d'un statu quo de la Fed au mois de juin, mais on n'exclut pas encore une potentielle hausse de taux au mois de juillet, ce qu'on pourrait avoir une pause un peu hawkish de la part de la Fed. Donc il faudra suivre ça la semaine prochaine. Et c'est vrai que là, on va rentrer dans une phase où petit à petit, on va avoir des marchés qui vont être beaucoup plus attentistes en attendant d'avoir justement cette réunion et potentiellement les répercussions de la décision qui sera prise la semaine prochaine. D'où déjà un petit peu cette phase de calme dans laquelle on rentre. On l'a vu déjà la semaine dernière avec un VIX qui était sur des niveaux de février 2020. Donc on a vraiment d'une volatilité qui est quasiment absente aujourd'hui du marché. On a un marché qui avance de manière très calme, que ce soit dans des phases de léger repli comme on a pu en connaître la semaine dernière, ou dans des phases de rebond comme on l'a vu aussi en fin de semaine dernière. Donc pour le coup, il se passe malheureusement pas grand-chose. On n'a pas un marché qui est extrêmement animé. On suit bien sûr des catalyseurs majeurs que sont l'inflation et décisions des banques centrales, mais voilà, pour à côté de ça, il y a pas énormément de mouvements sur le marché. Alors on a eu une petite news sur le pétrole avec justement l'Arabie Saoudite qui va réduire sa production, ça profite aux valeurs pétrolières. On voit Total qui tire un petit peu son épingle du jeu avec quasiment une progression de 1%. Mais voilà, sinon d'accord, globalement, on a un marché qui est très calme, qui est assez muet et qui a du mal justement à trouver, on va dire, ce second souffle pour s'affranchir, on va dire, des niveaux qu'on a atteints en fin de semaine dernière.
Vision proposée par Andrea Tweny depuis Saxo Bank. Mathieu Serron, comment voyez-vous les choses sur cet indice qui ne se décide pas ce matin?
Oui, tout à fait. On tourne en rond, même si ce matin, on a déjà pu faire un petit écart, dans la mesure où on avait proposé un achat à 7256,5. Avec un petit peu de réussite, ça a été le plus bas et on a pu revendre 25 points plus haut dans la foulée. Donc il faut faire preuve d'opportunisme et de patience, puisque, comme le disait Andrea, la volatilité reste extrêmement faible. On a, depuis le point bas de la semaine dernière, repris 3%, et ce qui valide notre idée de fond, notre scénario de fond, à savoir une tendance de fond qui n'est pas infirmée. Il faudrait, sur le futur échéance juin, casser la zone des 7030-7050. Et à l'image de ce qui s'est passé mercredi, avec une ouverture en gap à la baisse sur des plus bas de 2 mois environ, on voit qu'il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas d'effet domino, et c'est ça qu'il est intéressant de remarquer dans ces phases, on va dire, de petit stress, c'est qu'il n'y a pas d'emballement derrière qui se met en place. Au contraire, puisqu'on a stabilisé mercredi et jeudi, une partie de jeudi, pour ensuite vendredi repartir de l'avant. Un redémarrage, on va dire, qui se fait avec des valeurs qui sont plutôt en retard. Worldline, Unibail, Capgemini, donc conformément à ce qui se passait déjà en fin de semaine dernière, donc ces valeurs-là poursuivent bien. Donc nous, en termes de trading, eh bien, on travaille les deux sens, considérant que on est toujours neutre, on va dire, à moyen terme, haussier à long terme, neutre à moyen terme, avec des dynamiques de court terme qui se mettent en place. Là, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus haussière, mais on travaille les deux sens. Donc, un nouvel achat sur repli, d'accord, vers 7255 peut être tenté. Sinon, le niveau en dessous, c'est 7215-20. Et à très court terme, on va dire que tant qu'on est au-dessus de 7200, il n'y a pas de problème. On aurait une première remise en question sous 7170-80. Et juste pour finir, quand on regarde les petites capitalisations, certaines terminées un petit peu pas terrible vendredi, et on a un redémarrage ce matin, donc on voit qu'il y a de la prise de risque quand même sur ces valeurs-là, même si les intérêts restent parfois ponctuels, mais on voit que le moral reste quand même bon dans l'ensemble.
Merci à tous les deux. Donc, Andrea Tweni, Saxo Bank. On vous retrouve tout à l'heure, Andrea, pour suivre cette séance. On se donne rendez-vous à 11h30. Merci, Mathieu. Mathieu Céron, depuis Perceval Finance Conseil.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Le ouf de soulagement à Bercy, Standard & Poor's a donc maintenu la dette souveraine française à double A. C'est une bonne nouvelle ?
Bah oui, forcément une bonne nouvelle. Imaginez Standard & Poor's, qui est quand même la plus écoutée des agences, nettement plus que les deux autres. Standard & Poor's qui nous dégrade, et puis dans la foulée de Fitch qu'il a fait précédemment, c'est pas extraordinaire dans le décor. On est la France quand même. On se serait retrouvé aux côtés de la République tchèque, pas très très loin de l'Estonie, de la Lettonie. Bon, après, encore une fois, si on était passé de double A à double A moins, on n'aurait pas eu un armageddon et un cataclysme sur le taux à 10 ans de la France ce matin à l'ouverture des marchés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que dit S&P. Ils ont maintenu la note parce qu'ils ont et visiblement été convaincus par la stratégie de consolidation budgétaire présentée par la France. C'est-à-dire en fait la perspective 2027. En fait, il y a eu une grande séance de lobbying organisée par Bruno Le Maire, mais c'est son boulot. Il les a reçus à Bercy, les experts de Standard & Poor's, pendant plus de 2 heures. Bah, il a expliqué qu'il avait fait des réformes. Visiblement, son discours a été entendu. Il a expliqué qu'il avait la volonté de vraiment tenir les dépenses publiques à compter de 2024. Il faut reconnaître qu'il est sur une ligne. En tout cas, un discours qui n'a pas varié d'un iota sur cette question-là. Et puis, il a visiblement convaincu sur le fait que le quoi qu'il en coûte, c'était bel et bien terminé. C'est ce qu'il a répété et martelé d'ailleurs hier dans les colonnes du JDD. Donc, à ce stade, eh bien, nous restons en double A effectivement chez Standard & Poor's. Mais on est toujours sur perspective négative. Et ça remonte au mois de décembre.
Alors, quelle différence, puisque vous avez évoqué ces deux agences, trouve-t-on entre l'avis de Fitch et celui de S&P?
Et ben en fait, S&P a beaucoup, Fitch a été beaucoup plus sensible à des arguments sociaux et politiques que Standard & Poor's. Fitch avait mis en avant le climat social dégradé, avait mis en avant l'incertitude sur le fait de savoir si on avait encore la capacité à réformer le pays. C'est pas vraiment les éléments qui ressortent principalement dans l'avis de Standard & Poor's, qui s'est davantage intéressé à la dégradation de nos finances publiques. Et là, effectivement, il constate qu'on est à 111% de dette sur PIB et que le pays avec lequel on se compare traditionnellement, l'Allemagne, est à 66. Et surtout, il pense que le ratio de dette sur PIB ne baissera pas. Il restera à 110%, accroché à 110%, voire un peu plus, à l'horizon 2026. Et rappelle que la France est le pays le plus endetté dans le club des pays double A, juste derrière le Royaume-Uni. Mais il est quand même pas S&P n'est pas totalement passé à côté du risque politique, parce que le risque politique, quand vous n'avez pas de majorité au Parlement, il y a un moment où vous pouvez malheureusement, malgré les choix politiques de l'exécutif, perdre le contrôle de vos finances publiques. On a bien vu ce qui se passe là, avec cette proposition de loi Liot, qui risque de tomber sous le coup de l'article 40, parce que justement, elle a un impact dégradant sur les finances publiques. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme atout de la France dans ce que nous dit Standard & Poor's? Bien sûr, la capacité à lever l'impôt, c'est le principal élément qui rassure l'ensemble de la communauté des investisseurs qui nous prêtent de l'argent. Mais également, la fameuse attractivité de la France, qui a été confirmée par Ernst & Young au plus haut niveau depuis désormais 4 ans, et aussi la dynamique de la création d'emplois. En fait, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à baisser nos dépenses, on n'arrive pas à rendre nos dépenses plus efficaces, on n'arrive pas à baisser nos prélèvements obligatoires. D'année en année, de gouvernement en gouvernement, il ne se passe rien. Donc quand on n'arrive pas à jouer sur ces principaux leviers, ben, le seul autre levier disponible, c'est la croissance. Et effectivement, on a un peu plus de 7% de chômage. Alors c'est un chômage relativement bas par rapport à l'historique de notre chômage structurel. Mais c'est probablement là qu'il y a une vraie réserve d'activité pour le pays. Si on avait 10 points d'activité en plus, de taux d'activité en plus, on a globalement plus aucun problème de dépenses publiques. On n'a plus aucun problème d'aucune nature. On a réglé à peu près tous nos problèmes. Parce qu'à ce moment-là, on augmente considérablement les recettes. Un point de taux d'activité en plus en termes de recettes publiques, c'est quand même colossal, notamment parce que le travail est très taxé. Et donc, c'est quelque chose que met en avant dans les atouts de la France, Standard & Poor's. Après, la faiblesse, c'est très bien. Moi, je vous entends, monsieur le maire, mais maintenant, il va falloir passer aux actes. Oui. Passer aux actes, ça signifie qu'il va falloir mettre en musique la feuille de route budgétaire de 2024. Et ça sent quand même pas mal les coupes dans les dépenses fiscales. Quand vous reprenez ce qu'il dit hier dans le JDD, on va probablement faire payer un peu les gens qui utilisent leur compte personnel de formation. Le Pinel est en sursis et le prêt à taux zéro est quand même un petit peu réduit, même si sa durée de vie a été prolongée. La dépense fiscale, c'est quand même globalement des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. Voilà. Après, la messe n'est pas dite. Hein. On se dit, ah ben, c'est merveilleux, Fitch nous a laissé le double A. Il remet le couvert en décembre, Fitch. Moody's Standard & Poor's remet le couvert en décembre. Fitch et Moody's, ce sera à l'automne. C'est un peu du temps long quand même, ces notations d'agence. Quand on nous met en perspective négative au mois de décembre, à l'époque, tout le monde pense que c'est la récession qui va arriver. Ah ben finalement, elle n'est pas arrivée. À l'époque, on se dit, il y a une réforme des retraites dans les tuyaux, on va bien voir ce qu'elle va donner. On va laisser au temps l'histoire de s'installer. Hein, cette réforme des retraites suit son parcours. Récession, pour l'instant, on devrait a priori l'éviter. En décembre, Standard & Poor's aura l'intégralité de la photographie budgétaire de 2024 pour se prononcer. Et il est possible qu'ici même, on reparle à nouveau du risque de dégradation de la France au mois de décembre.
Bah comme ça, ça nous promet une nouvelle chronique.
Mais bien sûr.
Nicolas Dose pour la polémique chaque jour dans BFM Patrimoine. Dans un instant, on s'intéresse aux produits structurés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et pour ce faire, on accueille Guillaume Dumance pour 50. Bonjour Guillaume.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. On rappelle brièvement ce que tout le monde n'est pas forcément hyper affûté. Qu'est-ce qu'un produit structuré ?
Alors, un produit structuré est un produit financier qui va permettre à l'investisseur de connaître au préalable de son investissement son gain potentiel par rapport au risque qu'il est prêt à accepter et qui va définir notamment le sous-jacent, donc le moteur de performance du produit.
Et grâce à vous, on suit régulièrement ces produits structurés grâce à un baromètre que vous avez créé pour BFM Business. Quels sont les résultats de ce baromètre cette fois ? On a eu l'impression que les investisseurs ont presque appliqué le sell in main go away.
Exactement. On a eu une légère consolidation au mois de mai. Lorsqu'on s'était vu fin avril, au tout début du mois de mai, on avait un baromètre qui était assez confiant, assez haut, on va dire, en termes de niveau de rendement potentiel sur ce produit qu'on analyse tous les mois maintenant. Et là, à fin mai, donc au tout début du mois de juin, on a un baromètre qui baisse légèrement, donc avec un niveau de coupon qui est passé à 7,67%. Donc, je le rappelle, c'est un produit haut call qui est suivi comme ça chaque mois, donc qui permet de savoir si l'Eurostoxx est en hausse dans un an, je percevrai un coupon potentiel de 7,67%. Contre le mois dernier, fin avril, où nous étions plutôt de l'ordre de 8,18%. Donc on a baissé de l'ordre de 0,51% en un mois. C'est essentiellement dû à une baisse de la volatilité. On le voit, là, les marchés se cherchent un petit peu depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. On va également avoir les taux qui ont eu un impact, mais qui là aussi semblent stagner un petit peu. Il n'y a plus vraiment de tendance qui se dessine. Donc un baromètre qui se calme, des investisseurs qui sont un peu plus indécis et voilà, un marché qui est tout aussi intéressant et passionnant.
Est-ce qu'on détecte une tendance sur les types de produits qui sont demandés ?
Dans la droite ligne de cette indécision que nous avons, dans ces cas-là, l'investisseur, en tout cas dans les utilisateurs de la plateforme, ont tendance à chercher ce qui les rassure. Et qu'est-ce qui les rassure ? C'est de percevoir du rendement. Percevoir du rendement de manière régulière et non plus de s'attaquer à un hypothétique rendement qui ne serait distribué que si je devais avoir un marché qui reparte à la hausse en direction des 7005, 7007, 7008, que sais-je. Donc là, on a plutôt un retour à de la sécurité. Un retour à de la certitude avec des produits qu'on appelle dans le jargon de type Phoenix ou de type Reverse, qui sont des produits qui détachent des rendements de manière régulière, sous réserve que je n'ai pas baissé de plus de 20, 25, 30 ou 40%. Donc, une recherche de rendement plutôt sur des indices, même si les rendements ont baissé par rapport à ce que c'était encore il y a quelques mois. Mais cette recherche de rendement régulier qui ressort vraiment liée à cette incertitude, on le constate en tout cas par rapport à ce que les investisseurs nous montrent.
Rentrons un petit peu dans le détail et jetons un œil sur les valeurs. Quelles sont celles qui ressortent, qui sont particulièrement éventuellement impactées par nos marchés actuels ?
Alors, on a eu les valeurs du luxe qui ont fait un peu une entrée fracassante au mois de mai, liée là aussi à leur consolidation assez forte qu'on a pu observer. Donc beaucoup de demandes sur les valeurs du luxe, les valeurs comme traditionnelles qui reviennent, c'est Kering souvent qui est utilisé, voire des couples de valeurs aussi. On peut avoir un LVMH plus Kering plus L'Oréal par exemple, qui sont mis ensemble pour arriver à créer une sorte de panier autour du luxe qui va être utilisé. On a également les valeurs bancaires qui sont toujours un petit peu la douce mélodie qui revient dans les produits structurés. Elles sont historiquement plus volatiles, plutôt généreuses en termes de dividendes, qui sont deux carburants essentiels d'un produit structuré. Donc on a vraiment ces deux éléments. Ce qui est en revanche un peu sorti, c'est les valeurs de la tech. On avait jusqu'au mois dernier pas mal de demandes sur ce secteur. Là, on a eu un rattrapage qu'on a pu observer quand même sur ces valeurs. Donc un petit peu moins d'appétit, on va dire, sur les valeurs de la tech, mais toujours, voilà, les valeurs bancaires, les valeurs automobiles et un peu le nouvel entrant avec les valeurs du luxe.
Là, on regarde le marché d'aujourd'hui ou celui d'hier ou d'avant-hier. Est-ce qu'on peut regarder celui de demain ou celui d'après-demain ? Est-ce qu'on arrive à discerner un peu une tendance ?
Si on devait faire un tout petit peu de prospective, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, nos utilisateurs, nos clients, qui sont donc essentiellement des family office, des banques privées, des CGP, cherchent des moyens de sécuriser le patrimoine de leurs clients. On est sur des marchés qui sont hauts, on le disait. Et donc, dans ce cadre-là, souvent, le réflexe du client va être, en premier lieu, d'aller sur son livret A, de le mettre au maximum, de le mettre au plafond. Ensuite, il pense à son fonds en euros, qui est pareil, qui est un peu une source de certitude. Mm-hmm. Et puis, lorsqu'on s'attaque à des UC, à des unités de compte, donc à des produits dits ou supposément plus risqués, se pose un grand point d'interrogation. Et donc, quand on arrive à cet élément en termes de discussion, les recherches sur la partie produits structurés vont être vers des produits qui offrent des rendements de l'ordre de 5% en termes d'objectifs de rendement. D'accord. Donc, cette logique défensive, là aussi, et qui vont permettre du rendement détaché et qui ont un profil, on va dire, assez proche de celui du livret A ou du fonds euro.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Cédric.
Guillaume Dumont, c'est 50 qui nous accompagne régulièrement dans ce monde des produits structurés. Et nous, on jette tout de suite un œil sur ce marché de début de semaine.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit coup d'œil sur cet indice CAC qui fluctue, quasiment collé sur son niveau de clôture de vendredi soir. On perd modestement 0,02%, 7269 points. Ailleurs en Europe, d'ailleurs, la tendance est très similaire. L'Eurostock 50 est quasi étale également. Du côté des principaux arbitrages, du vert sur Orange, sur Unibail, sur Total, et puis du rouge sur STMicro, Pernod ou encore LVMH, l'Eurodoll est à 1,0694.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Comme chaque lundi à cette heure-ci, on retrouve Christian Fontaine pour Le Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
Ce matin, on va s'intéresser au monde du vin parce que la campagne de commercialisation des primeurs 2022 débute. C'est un mécanisme particulier que cette campagne des primeurs pour le marché bordelais, hein, pour l'essentiel en tout cas.
Alors, en tout cas, c'est un mécanisme synonyme, peu ou prou, on va le voir, de bonnes affaires. Alors, effectivement, comment ça fonctionne ? Ben, c'est un mécanisme de pré-vente, en fait, de grands crus, souvent bordelais, mais aussi parfois des bourgognes. À ne pas confondre l'appellation donc vin en primeur, le sujet de cette chronique, avec vin primeur. Là, ce sont des vins jeunes que l'on boit dans les mois qui suivent la récolte des...
Généralement pas des vins de garde.
Des raisins. Ce sont pas des vins de garde. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt, puisqu'il s'agit bien de ça, quand même, de faire une avance de trésorerie à des grands châteaux, hein, puisque on le rappelle, le mécanisme, c'est-à-dire que vous allez acheter aujourd'hui le millésime 2022, un vin qui est encore en barrique, et vous ne serez livré des dives bouteilles que dans 2 ans, c'est-à-dire en juin 2025. Alors, le premier avantage, c'est que ça vous permet de vous procurer des grands crus bordelais, même si vous avez les 500, 600, 700 et les 1000 euros nécessaires pour vous payer une bouteille de Cheval Blanc. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver sur Internet ou même ailleurs si vous n'avez pas les bons contacts à Bordeaux. Vous avez aussi les quantités peu ou prou sous réserve de contingentement. Vous avez le format bouteille de 75, Magnum ou Jéroboam. Donc, je dirais que vous pouvez alimenter votre cave de grands crus. Le deuxième avantage, c'est bien sûr, mais il est financier, on est dans une émission placement, c'est-à-dire que vous pouvez espérer, en tout cas vous espérez, payer moins cher vos dives bouteilles que le prix de marché, donc lorsqu'elles seront mises sur le marché.
Alors, effectivement, on rappelle donc, vous l'avez bien expliqué, on fait confiance aux dégustateurs qui ont donné des notes, on achète un vin qui est en cours d'élevage et on le recevra à terme. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on fait toujours de bonnes affaires ?
Alors, bonne question. Alors pour répondre à cette question, en fait, au revenu, nous avons comparé le prix en primeur avec le prix de marché pour 6 millésimes de 2010 à 2021, donc pas pour tous les millésimes, de 5 châteaux parmi les plus prestigieux, au Marbusais, Sociando Malais, Giscourt, Angélus et Lafitte Rothschild. Donc ça fait un relevé de prix pour 30 30 grands vins. Et que constate-t-on? La conclusion, c'est que sur les 30 vins, il y en a 28 où vous ressortez gagnant. Ça signifie que dans 28 cas sur 30, les acheteurs, hein, ça fait 93,3% des acheteurs de vins en primeur, ont été gagnants. Il y a deux perdants, c'est Lafite Rothschild millésime 2011 et Angelus 2021. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Non seulement vous êtes gagnant dans quasiment 95% des cas, mais la plus-value potentielle s'établit en moyenne à 47,2%.
Surtout qu'en plus 2021, il pourrait encore grimper là.
Bien sûr qu'il peut grimper, puisque en fait on a comparé certains millésimes relativement vieux, hein, des millésimes 2010, 2011, 2012, avec des millésimes plus récents qui peuvent prendre encore de la valeur.
On peut dire que celui-là, il est 0,5, quoi.
Mais là vous abordez effectivement un des points essentiels, ce sont les enseignements de ce comparatif. Bon. Le premier élément de ce comparatif, c'est que il faut. Alors, on peut commencer par le temps. Il faut donner du temps au temps. Et ça, par exemple, l'évolution du cours de Château-Giscourt le montre très très bien. Et votre intuition s'avère exacte. Si vous revendez aujourd'hui du Giscourt de 2019 ou 2020, vous allez réaliser, peu ou prou, selon les prix sur Internet, une plus-value de 44% ou 13%. Maintenant, si vous revendez du Giscourt de 2011 ou 2013, la plus-value dépassera 100%. Donc, vous avez raison, Cédric, de préciser qu'il faut donner du temps au temps pour gagner avec ce mode de commercialisation. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, il va vous faire moins plaisir. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut mieux miser sur des grandes appellations que sur des petits châteaux. Et là aussi, lorsque vous regardez l'évolution des prix avec des bouteilles à 10 ans, avec des bouteilles achetées entre 20 et 40 euros, selon les relevés du revenu, l'espoir de gain est entre 70 et 80%. C'est déjà pas mal. Mais si vous achetez en primeur, une bouteille autour de 100 euros, et ben là, le gain, le moyen, d'après les relevés du revenu, il est supérieur à 150%. Donc, c'est vrai qu'il peut être tentant d'acheter un petit Bordeaux à moins de 5 euros en se disant, bon, en primeur, il faut en trouver. Généralement, vous n'en trouvez pas. Mais autour de 20 euros, en espérant faire x10, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous gagnez plus avec des grands châteaux qui sont plus spéculatifs, où les acheteurs sont internationaux, donc la demande est beaucoup plus importante.
Mais donc, on fait de bonnes affaires avec des primeurs?
Alors, oui, on peut faire de bonnes affaires avec des primeurs, mais comme on est dans une émission de placement, il n'y a pas de garantie. Votre capital n'est pas garanti. Tout à l'heure, je citais des accidents de parcours, puisqu'il y en a. Hein. C'était effectivement Lafite Rothschild 2011 et Angelus 2021. Accident de parcours, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces vins, vous pouvez les trouver sur Internet à un prix inférieur du prix en primeur en 2011 ou en 2021. Mais aussi des bonnes surprises. Par exemple, Lafite Rothschild 2019, donc 2019 un millésime relativement récent, eh ben vous gagnez déjà 119%. Donc c'est énorme. Et pourquoi? Mais ça, c'est un peu particulier. C'est parce que, en fait, le 2019, ben, à cause de la Covid, n'a pas pu être dégusté. Les châteaux, en tout cas, certains châteaux comme Lafite Rothschild ont pratiqué des tarifs relativement corrects, en tout cas par rapport à la qualité du millésime. Oui. Et donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer que le Giscourt
de année aussi,
une année exceptionnelle, le Giscourt de. Alors oui, pour répondre à votre question, on peut faire des bonnes affaires, mais il faut quand même à consommer ou à investir avec modération. Il n'y a pas de garantie sur le capital.
Juste, vous avez rappelé au départ comment fonctionnaient ces primeurs, et on a l'impression que c'est un peu fermé, un peu réservé, un peu spécial, un petit peu pas opaque, mais enfin bon. Comment on fait, à qui on s'adresse si on veut acheter en primeur?
Alors, en fait, c'est très simple, c'est accessible à tous. Vous avez sur Internet, vous avez des tas de sites qui vous proposent donc alors d'acheter des vins en primeur.
Ouais, mais la question, certains qui.
Alors voilà. Alors attendez. Là, la question c'est clé. Il faut acheter via le bon réseau de distribution. Mais tout simplement parce qu'il faut que ce réseau soit encore là dans 2 ans pour vous livrer les 10 bouteilles, quand même. Ouais. Bon. Donc il y a eu des accidents de parcours dans le passé. La faillite retentissante, par exemple, de 1855.com a laissé un goût amer à de nombreux investisseurs qui avaient acheté en primeur des bouteilles qui n'ont jamais été livrées. Pour vous éviter une telle mésaventure, donc effectivement, bien choisir avec soin le réseau de distribution, sachant que les prix sont imposés par la place de marché de Bordeaux. Donc, la seule différence, la différence ne peut se faire que sur le coût de livraison. Alors, mon conseil, c'est très simple, conseil du revenu, c'est de vous adresser au caviste du coin. Donc, un black et mortier, vous savez, c'est un établissement physique. Mais pourquoi? Parce que lui va être livré des 10 bouteilles et vous irez chez lui les prendre. Donc, vous échapperez aux frais de livraison. Et les frais de livraison, ça peut grimper assez vite. Ou alors, si vous achetez via Internet, il peut ne pas y avoir de frais de livraison, mais il faut au moins acheter 6, 12, 18, 24 bouteilles du même château, le même millésime. Ce qui, à moins d'avoir une grande cave no color et des poches bien profondes, n'est pas toujours facile. Donc, bien choisir avec soin et ne pas hésiter à vous adresser à un courtier physique qui a pignon sur rue, qui recevra les bouteilles. Ça vous permettra d'échapper aux frais de livraison. Alors, la vraie question qui se pose quand même, le millésime 2022 va être a priori exceptionnel, selon les experts. Alors, les prix aussi vont être exceptionnels parce qu'ils ont été aussi, ils sont fortement en hausse. Donc, que faut-il acheter? On dit toujours grand millésime, petit château, petit millésime, grand château. Donc, vous voyez où je veux en venir. Écoutez, l'une des options éventuellement, c'est les seconds vins des grands châteaux. Alors, les Caruades, Lafite Rothschild, les Carillons de l'Angélus, alors c'est pas donné, hein, c'est quand même des bouteilles à plus de 100 euros, voire à plus de 200 euros pour Caruades, Lafite Rothschild. Mais en tout cas, c'est en phase avec les résultats du comparatif et du relevé de prix du revenu qui montrent que pour gagner plus de 100% sur 10 ans avec des vins achetés en primeur, il faut mieux miser sur des grands châteaux.
Merci beaucoup Christian pour ce voyage en primeur à Bordeaux. On se retrouve tout à l'heure.
Avec grand plaisir.
Pour répondre aux questions des auditeurs. D'ici là, on filera sur les marchés et suivra Regard Croisé.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.